Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Quel avenir pour l'Égypte ? La revue Moyen-Orient se penche au chevet du plus grand pays de la région. Interrogations politiques, difficultés économiques, dégradation de la vie sociale. Les Égyptiens ont, semble-t-il, toutes les raisons d'être inquiets. Un drapeau américain qui flotte dans le ciel iranien, des réfugiés libyens mal vus en Tunisie, une caméra qui filme au cœur même du repère syrien de l'organisation État islamique. Ce mois-ci encore, les observateurs de France 24 n'ont pas chômé. À suivre également la revue de presse avec ce samedi Christian Brunel à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Géographiquement situé sur le continent africain, mais avec un pied en Asie, le Sinaï, prolongement du Maghreb méditerranéen, mais très tourné vers le Proche-Orient dont elle est l'état le plus peuplé, l'Égypte est à la fois multiple et incontournable. Un pays dont l'histoire a plus de 6000 ans et qui a donné naissance à une fabuleuse civilisation, celle des pharaons. Un pays qui, paradoxalement, se découvre aujourd'hui étonnamment jeune et dont l'évolution politique s'avère plutôt instable. Guillaume Fourmont, bonjour.
Bonjour.
En duplex depuis Aix-en-Provence, dans le sud-est de la France. Vous êtes rédacteur en chef délégué de la revue trimestrielle Moyen-Orient, avec laquelle RFI est en partenariat. Alors, dans le numéro 24, qui sort en kiosque en ce début octobre, vous consacrez votre dossier au plus grand pays arabe du monde musulman, avec cette interrogation majeure entre révolution et autoritarisme. Où va l'Égypte ? Alors, Guillaume Fourmont, qu'est-ce qui justifie une telle indécision ?
L'Égypte est dans un processus révolutionnaire qui n'a sans doute pas arrêté depuis la chute d'Hosni Moubarak en février 2011. Toutefois, elle est sur un retour d'autoritarisme, car tout indique un retour au réflexe de l'ancien régime. Autour de la personne d'Abdel Fattah al-Sissi, nous sommes véritablement dans un processus de contrôle politique, économique et aussi moral de la société, après près de 4 ans d'un long processus révolutionnaire.
Que reste-t-il de la révolution de 2011 ?
Les différentes dynamiques qui sont apparues sur la place Tahrir, aujourd'hui, sont presque absentes, voire invisibles. Cette jeunesse connectée à Internet, ces ouvriers, cette classe moyenne ne sont plus là. On ne les voit plus. Les mesures sécuritaires prises par les autorités sont extrêmement sévères et la répression touche tout le monde. Donc il est extrêmement difficile d'identifier un discours, une opposition à un ordre rétabli et incarné en la personne d'Abdel Fattah al-Sissi.
Alors la révolution tunisienne a probablement favorisé celle d'Égypte en 2011. On a d'ailleurs souvent fait le parallèle entre ces deux révoltes. Il y a pourtant une énorme différence. La Tunisie semble prendre son temps pour se réformer alors que l'Égypte multiplie les scrutins. Est-ce que c'est vraiment sain, Guillaume Fourmont ?
Alors c'est vrai que l'Égypte, d'une certaine façon, a donné une leçon de démocratie en votant 7 fois, et en principe une 8e fois avant la fin de l'année, pour des législatives, à des scrutins, alors que les Tunisiens ont voté une seule fois. Toutefois, on voit bien les différents débats politiques et les différents changements de constitution qui n'ouvrent pas la classe politique égyptienne. Les réflexes restent les mêmes. Alors, on s'est attardé sur les militaires qui contrôlent une immense partie de l'économie et la structure politique du pays. On pourrait également prendre l'exemple des frères musulmans. Les frères musulmans, et c'est une des raisons de leur échec, n'ont pas su s'adapter sur la scène politique public, par exemple en instaurant un vrai parti politique ou en étant une structure visible aux yeux de tous les Égyptiens.
Et alors justement, est-ce que les frères musulmans peuvent espérer sortir de la clandestinité dans laquelle ils sont aujourd'hui ? Est-ce que votre dossier avance sur ce terrain ?
Alors, les frères musulmans sont dans une situation très délicate. Après être passés au pouvoir, ils font face aujourd'hui à une répression sans précédent. Et tous ces membres sont plus ou moins recherchés et quand ils sont identifiés, ils sont emprisonnés. Certaines sources parlent de 10 000 à 15 000 arrestations depuis un an. C'est absolument énorme. Donc les frères musulmans, qui étaient certes habitués à vivre en clandestinité via des associations, des centres médicaux, des centres d'éducation. Aujourd'hui, beaucoup de ces lieux ont été repris en main par l'État. Et donc, les frères musulmans doivent, si j'ose dire, se réinventer une clandestinité pour pouvoir être présents dans la société égyptienne.
Alors, dans cette société égyptienne, il y a d'autres composantes. Les frères musulmans en sont une, bien sûr, l'armée également. Il y a aussi la communauté chrétienne, les coptes. Est-ce que cette communauté a encore un avenir en Égypte ?
Alors, c'est une grande question. Les coptes, effectivement, c'est la communauté chrétienne la plus importante et la plus ancienne du monde arabe. Ils sont soumis généralement à beaucoup d'attaques. Ils se disent même réprimés par les autorités et par la population majoritairement musulmane. D'une façon générale, la population copte a très peur aujourd'hui et une majorité de la population copte, et si j'ose dire, également une majorité de la population égyptienne finalement, préfère la situation actuelle qui maintient une sécurité, mais attend un avenir meilleur. Et c'est ça le défi de M. El-Sissi.
Et vous l'exprimez à travers une analyse qui montre que, par exemple, un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre d'écrivains ont finalement fait allégeance à cette nouvelle présidence, à cette présidence El-Sissi.
Ah oui, c'est très intéressant. Nous avons vu beaucoup d'écrivains, j'en citerai un car il est très connu en France, Alaa El Aswani. Monsieur El Aswani a convoqué une conférence de presse peu après le coup d'État du 3 juillet 2013 pour soutenir les militaires, considérant que il fallait mettre fin à ce qui s'annonçait comme une dictature religieuse. Tout le monde, au début de la révolution en 2011, voyait Monsieur El Aswani comme une voix de la liberté et de la démocratie, et ces intellectuels voyaient ce putsch comme une étape nécessaire dans la démocratisation du pays. Le problème, c'est que l'Égypte aujourd'hui, plutôt le régime, a imposé une censure des pratiques qui rappellent l'Ancien Régime. Les journaux sont tous au pas, donc les propres intellectuels sont en train de définir leur relation entre leur liberté de parole et les autorités.
Peut-on dire que la société égyptienne, aujourd'hui, en 2014, est dans un entre-deux ? Elle attend de voir comment vont s'organiser les premiers mois de cette présidence Al-Sisi ?
Effectivement, il ne faut jamais oublier que la priorité pour la société égyptienne, c'est un vivre meilleur. Ça a été l'une des grandes dynamiques de la révolution en 2011. Et c'est peut-être un couteau à double tranchant pour les autorités actuelles. C'est que la rue sait qu'elle peut démettre de ses fonctions un chef d'État. Le chômage, l'économie souterraine, d'immenses difficultés sociales, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé restent des priorités pour la majorité des Égyptiens. Et si nous sommes dans une période, comme vous dites, un peu attentiste, le processus dans lequel s'est inséré l'Égypte depuis 2011 pourrait se retourner contre l'actuel pouvoir.
À lire donc dans le numéro 24 de la revue trimestrielle Moyen-Orient qui sort dans ce début du mois d'octobre. Merci Guillaume Fourmont, rédacteur en chef délégué de la revue Moyen-Orient. Duplex assuré depuis Aix-en-Provence par l'équipe technique de France Bleu Provence, radio locale du groupe Radio France, que nous remercions. Les observateurs de France 24 nous envoient chaque jour, chaque semaine, tout au long de l'année, leurs informations insolites, humoristiques ou révoltées. Bonjour Jamel Belayachi.
Bonjour Eric Bataillon.
Vous êtes l'un des journalistes qui collecte ces informations des observateurs et vous en avez sélectionné trois pour Orient Hebdo. On commence avec ces images amateurs tournées dans les rues d'Al-Raqqa où les forces de la coalition mènent depuis quelques jours déjà une offensive aérienne contre les positions de l'organisation de l'État islamique.
Depuis que cette ville est tombée aux mains de l'EI en juin 2011, très peu de reportages ont été tournés dans Al-Raqqa. Les djihadistes interdisent formellement la prise de photos ou de vidéos. En raison des frappes de la coalition, ils sont actuellement sur les dents et n'hésitent pas à fouiller les téléphones portables des passants pour s'assurer qu'ils n'ont pas d'image. Mais un jeune activiste syrien, Abu Waret, a décidé de braver cet interdit. Il filme sa ville depuis plus d'une semaine et poste les vidéos sur une chaîne YouTube qui s'appelle « Al-Raqqa est égorgé en silence ».
Et que voit-on sur ces images ?
En fait, il s'agit de vidéos courtes, tournées discrètement avec un téléphone portable. Sur ces images, on voit les rues commerçantes d'Al-Raqqa, d'habitude bondées de monde, désertées par les habitants. on ne voit pas de combattants patrouiller, mais on constate que le drapeau noir de l'organisation trône toujours sur la place principale de la ville. Et on voit de temps à autre un véhicule avec le sigle de l'organisation tourner au coin d'une rue. Abu Wered, que nous avons pu joindre, dit craindre pour sa vie si jamais il est pris. Il dit qu'il quittera la ville dans les prochains jours pour se réfugier en Turquie.
Et en Tunisie aussi, Jamel, il y a beaucoup de réfugiés, les Libyens qui ont fui la guerre notamment, mais certains se disent stigmatisés.
Oui, les récents combats entre les milices rivales à Tripoli ont provoqué un nouvel afflux massif de réfugiés libyens vers la Tunisie ces derniers mois. Cumulé avec la première vague de réfugiés arrivés après la chute de Muammar al-Kadhafi, il serait plus d'un million de réfugiés libyens aujourd'hui. Ce pays de 10 millions d'habitants, qui connaît des difficultés économiques, n'était pas prêt à accueillir autant de réfugiés. Et forcément, la cohabitation n'est pas facile. Régulièrement, la presse tunisienne rapporte dans ses pages de faits divers les délits commis par des ressortissants libyens. Par exemple, il y a quelques jours, plusieurs journaux se sont réjouis de la diffusion d'une vidéo amateur montrant l'arrestation par la police tunisienne d'un Libyen qui faisait du rodéo avec sa voiture dans une rue de Carthage. Sur les images, les policiers ont giflé le conducteur et la personne qui l'accompagnait, au mépris des règles de procédure. Un dérapage qui n'a pas beaucoup ému la presse, d'habitude si prompte à dénoncer les dérives de la police. Nous avons reçu plusieurs témoignages de Libyens qui se plaignent de la mauvaise réputation qui leur est faite dans les médias. Ils tiennent à tordre le cou aux idées reçues.
Des idées reçues, par exemple ?
Les Libyens sont perçus comme des gens aisés, qui dépensent l'argent sans compter et qui seraient du coup responsables de la flambée des prix du secteur immobilier. Mais pour Malek El Kabir, un jeune étudiant originaire de Tripoli, actuellement installé à Tunis, ce sont les propriétaires qui exigent des loyers plus élevés aux Libyens, parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont riches.
Jamel, vous nous emmenez maintenant en Iran où le drapeau américain flotte à nouveau.
Oui, dans un pays où les autorités religieuses n'hésitent pas à appeler les États-Unis le grand Satan, la bannière étoilée n'est tolérée qu'en cas d'événements sportifs auxquels participent des athlètes américains. Et pourtant, le drapeau américain a été filmé récemment dans la ville de Sari, sur le bord de la rivière Tajan. Dans le cadre de travaux de réaménagement des rives, la mairie a fait installer plusieurs drapeaux en guise de décoration. Mais les habitants ne s'attendaient pas à ce que parmi ces nombreux drapeaux flotte celui des États-Unis. Les images tournées par des habitants ont été largement relayées sur les réseaux sociaux conservateurs.
Merci Jamel Belayachi. On peut retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur le site observers.france24.com.
Orient Hebdo sur RFI.
Youmna Saba est une chanteuse libanaise originaire de Beyrouth. On a pu la voir récemment au festival Waker Park à Batroun, où elle a présenté son dernier album, Njoum. Nous en avons extrait ce morceau, Falla Tehani, sur RFI.
orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchanti et Christian Brunel pour lire la presse de la semaine. Christian, on commence avec vous. Comment réagissent les médias à la brusque poussée de tensions entre Israël et le Hezbollah libanais ?
Eh bien, les correspondants militaires ont évoqué le scénario d'une nouvelle guerre contre le Hezbollah. Tous ont souligné que le parti chiite a revendiqué cette semaine l'explosion de deux bombes à la frontière avec le Liban qui ont fait deux blessés parmi les soldats israéliens. Jusqu'à présent, les médias estimaient que le Hezbollah était trop occupé à se battre contre les djihadistes de l'État islamique et d'Al-Nusra en Syrie pour ouvrir un nouveau front avec Israël. Les médias ont toutefois commencé à changer de ton en estimant qu'une escalade militaire est désormais possible. Comme le souligne un commentateur, je cite, « Le Hezbollah veut désormais prouver qu'Israël n'a plus la carte blanche au Liban. »
Et vos journaux rendent compte également, Christian, d'une mystérieuse explosion qui aurait eu lieu sur un site nucléaire secret en Iran et qui aurait fait deux morts.
Oui, et comme d'habitude, les médias ont évoqué à demi-mot une possible opération du Mossad, des services secrets israéliens, dont la mission prioritaire est de saboter le programme nucléaire iranien. Le quotidien Yediot Ahronot a publié la photo d'une dizaine d'experts, d'ingénieurs, de hauts gradés iraniens qui ont trouvé la mort ces dernières années dans des conditions suspectes. Le journal rappelle au passage que la veille de l'explosion, Yuval Steinitz, le ministre chargé des services de renseignement, avait dénoncé le danger représenté par les activités auxquelles se livraient les Iraniens sur le site de l'explosion.
À chacun son terroriste, c'est ce qui ressort, Alexandre, de nombreux articles de la presse arabe qui font le tour des membres de la coalition contre l'organisation de l'État islamique.
Les journaux arabes commencent par souligner que les deux principaux membres de la coalition, les États-Unis et la France, ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Exemple, la zone tampon que la Turquie veut imposer en Syrie et le degré d'hostilité à l'égard du régime de Bachar el-Assad. Les journaux indiquent aussi qu'il y a l'Égypte qui insiste sur la lutte contre tous les extrémismes musulmans, y compris ceux qui sont à sa porte en Libye. Les journaux n'oublient pas le grand absent de la coalition, mais dont l'influence est incontestable en Irak et en Syrie, c'est-à-dire l'Iran, pour qui l'État islamique sunnite est le grand Satan, tandis que Bachar el-Assad, le grand allié.
Et par ailleurs, Alexandre, la situation de la ville kurde syrienne de Kobané provoque de nombreuses réactions hostiles à la politique du gouvernement turc.
Une presse arabe qui, pour la première fois, exprime une sympathie à l'égard des Kurdes. Les Arabes ont en effet toujours regardé avec défiance ces non-Arabes aux aspirations indépendantistes. Mais vu l'état où se trouvent l'Irak et la Syrie, les journaux préfèrent l'indépendantiste bien de chez nous que le retour de l'occupation du sultanat ottoman. Certains éditorialistes n'hésitent pas à accuser la Turquie d'avoir soutenu et entraîné Daesh pour restaurer leur mainmise sur leur ancien empire.
Ajoutons, Alexandre, qu'Internet serait l'arme de propagande massive de l'organisation terroriste, si l'on en croit la presse arabe.
Une propagande qui ne passe plus par les blogs fermés, mais principalement par Twitter et YouTube. YouTube pour répandre les vidéos de musulmans tués par les mécréants, suivies d'appels aux musulmans pour les venger, puis par de nouveaux clips YouTube montrant l'exercice de la loi du talion par les djihadistes. Les journaux arabes consacrent plusieurs articles sur les mesures que cherchent à prendre les Européens contre la propagande djihadiste sur Internet. Une manière indirecte de justifier les mesures qu'ont déjà adoptées plusieurs pays arabes.
Et puis une histoire de yaourt au chocolat qui fait la une de la presse israélienne, racontez-nous ça.
Eh bien oui, le Milky et le nom, et surtout le prix de ce pudding au chocolat ont effectivement été la vedette de la semaine. Tout a commencé par un appel lancé sur les réseaux sociaux par des jeunes Israéliens qui se sont installés à Berlin et qui demandaient qu'on suive leur exemple. Pour justifier leur démarche, ils ont publié le ticket de leur course et notamment du Milky dans un supermarché allemand en défiant les Israéliens de trouver moins cher chez eux. Ils ont facilement gagné leur pari étant donné le niveau de prix très élevé en Israël. Cette initiative est faussement anecdotique. Elle révèle un véritable malaise des classes moyennes qui ont de plus en plus de mal à vivre décemment, d'où la tentation d'exil.
Alors un peu de politique, Alexandre, avec de nombreux journaux arabes qui saluent la première réunion du gouvernement palestinien d'entente nationale à Gaza.
Le Premier ministre Rami El Hamdallah et les membres de son cabinet de Ramallah en Cisjordanie se sont en effet réunis à Gaza au milieu de mesures de sécurité exceptionnelles, mais aussi d'une liesse populaire. Une entente que les journaux arabes espèrent durable et non uniquement suscitée par la conférence pour la reconstruction de Gaza qui doit se tenir au Caire dimanche.
Et pour conclure cette revue de presse régionale, Christian Brunel, votre photo du jour, ou en fait qui est un dessin.
Oui, dans le quotidien Haaretz, on voit un père israélien installé à Berlin menaçant son fils qu'il nourrit à la cuillère au Milky d'appeler, je cite, la Gestapo si le petit garçon continue à refuser de manger son dessert.
Merci Christian, merci Alexandre, merci à François Porcheron, réalisateur de cette émission, que vous pouvez retrouver, l'émission, sur le site www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.